Chapitre 2. Le pot de miel. 1. Detta s'était tapi dans la crevasse ombragée formée par deux rochers appuyés l'un sur l'autre, tels des vieillards pétrifiés au moment où ils échangeaient un secret. Elle observait Eddie arpentant les éboulis des collines et ses gosillons à la plaie. Avec le duvet qui avait fini par se transformer en barbe sur ses joues, on l'aurait presque pris pour un adulte. Presque. Car quand à 3 ou 4 reprises il était passé près d'elle, et même une fois si près qu'elle n'aurait eu qu'à tendre la main pour lui saisir la cheville, il était devenu manifeste qu'il s'agissait toujours d'un gamin, et d'un gamin au bout du rouleau. Odetta aurait éprouvé de la pitié. Detta n'avait en elle que la glaciale vigilance du prédateur. Quand elle s'était glissée à 4 pattes dans cet abri, elle avait senti comme des feuilles mortes craquer sous ses mains. À mesure que ses yeux s'étaient accoutumés à l'obscurité relative, elle avait découvert qu'il s'agissait non de feuilles, mais des os minuscules de petits animaux. Quelques carnassiers, belettes ou furets, depuis si longtemps partis ailleurs à en croire le jaunissement de ses vestiges, avaient eu ici sa tanière. Il avait dû sortir la nuit pour monter dans les drawers, guidé par son flair, guidé vers sa proie, là où broussailles et futaies se faisaient plus épaisses. Il l'avait trouvé, l'avait tué, on avait ramené ici les restes pour son repas du lendemain, entre 2 sommes, dans l'attente du soir, dans l'attente du moment de repartir en chasse. L'antre hébergeait à présent un plus gros prédateur. Et Detta avait tout de suite pensé qu'elle devait, grosso modo, sommeil en moins, se comporter comme le précédent locataire. Attendre le moment où Eddie s'endormirait, comme elle avait la quasi-certitude qu'il finirait par faire, puis le tuer et ramener ici son corps. Les 2 pistolets en sa possession, elle pourrait alors descendre jusqu'à la porte et attendre le retour du vraiment méchant. Sa première idée avait été de tuer le corps du vraiment méchant, sitôt réglé le compte du gamin, puis elle s'était ravisée. Si le vraiment méchant n'avait pas de corps où rentrer, quel espoir aurait-elle de s'évader d'ici, de réintégrer son propre monde ? Cela dit, avait-elle un moyen de convaincre le vraiment méchant de la ramener chez elle ? Peut-être pas, mais peut-être que oui. Par exemple, s'il savait Eddie toujours en vie. Et il en résultait une bien meilleure idée. 2. Bien que rusée au possible, elle pouvait aussi se montrer totalement dénuée d'assurance, bien qu'elle eût probablement ri au nez de quiconque aurait osé le suggérer. C'est par ruse qu'elle avait senti le pistolero. Elle avait entendu un coup de feu et avait regardé. De la fumée sortait de l'autre revolver. Puis, elle avait vu Roland recharger son arme et la lancer à Eddie avant de franchir la porte. Elle avait compris ce que c'était censé signifier pour Eddie. Que toutes les cartouches n'avaient pas pris l'eau, que le revolver était en mesure d'assurer sa protection. Elle savait aussi quelle signification cela revêtait pour elle. Car le vraiment méchant, bien sûr, n'avait pas ignoré qu'elle les observait, et que, même si elle dormait encore quand ils avaient commencé à bavarder, le coup de feu n'avait pu manquer de la réveiller. « Ne t'approche pas de lui, il est armé !» Mais les démons étaient connus pour leur subtilité. Si ce petit numéro avait été monté à son intention, ne pouvait-elle envisager que le vraiment méchant ait eu en tête un autre but censé n'être entrevu ni d'elle ni du gamin ? Qu'il ait en réalité pensé. Si elle voit cette arme en état de tirer, elle en déduira que celle qu'elle détient en est également capable. Maintenant, supposons qu'il ait eu conscience de ce qu'Eddie finirait par céder au sommeil. N'aurait-il pas su alors qu'elle allait attendre ce moment pour subrepticement descendre chercher l'arme et tout aussi subrepticement remonter se réfugier dans les collines ? Oui, le vraiment méchant pouvait avoir prévu tout ça. Il était vachement malin pour un cul blanc. assez pour comprendre que Teta était voué à tirer le meilleur parti du petit jeune homme. Il était donc possible que le vraiment méchant ait à dessein mis dans cette arme des balles défectueuses. Il lui avait déjà fait le coup. Pourquoi n'aurait-il pas recommencé ? Cette fois, elle avait soigneusement vérifié que les cartouches étaient complètes, qu'il ne s'était pas contenté, comme l'autre jour, de garnir le barillet de douille vide. Elle n'avait rien relevé d'anormal, mais aurait eu tort d'y voir la preuve que ses balles partiraient. Car en fait, il n'avait même pas eu à risquer que l'une d'entre elles fût assez sèche. Il était parfaitement capable de les avoir bricolées. Après tout, les armes étaient la spécialité du vraiment méchant. Et pourquoi aurait-il fait ça ? Pardi, pour l'obliger à se montrer. Eddie n'aurait plus qu'à la tenir en joue avec son pistolet qui lui fonctionnait, et si fatigué fut-il, il n'irait pas faire deux fois la même erreur. Il était même permis de penser qu'il serait particulièrement attentif, précisément parce qu'il était au bout du rouleau. « Bien joué, Cublan !» se dit Détat dans sa tanière ombrageuse, dans cet endroit exigu et néanmoins confortable, avec son sol tapis d'ossements que le temps avait rendu friable. « Bien joué, mais ça ne prend pas. » Rien ne l'obligeait à tirer sur Eddie, après tout. Il lui suffisait d'attendre. 3. Sa seule crainte était de voir revenir le pistolero avant qu'Eddie n'ait succombé au sommeil. Mais l'absence du vraiment méchant se prolongeait. Le corps affalé au pied de la porte restait inerte. Peut-être rencontrait-il des problèmes pour trouver le médicament dont il avait besoin, ou quelque autre sorte de problème, puisqu'elle savait de lui. Ce genre d'homme semblait attirer les ennuis comme une chienne en chaleur attirait les mâles en rute. 2 heures s'écoulèrent, tandis qu'Eddie battait les collines à la recherche de celle qu'il nommait Odette. Oh, qu'elle avait horreur de ce haut initial, qu'il arpentait les lourdes courbes, hurlant jusqu'à ne plus avoir de voix. Il finit par faire ce qu'elle n'avait cessé d'attendre, redescendant jusqu'à la petite pointe de plage pour s'asseoir à côté du fauteuil et promener autour de lui des regards désolés. Sa main monta effleurer les roues du fauteuil, presque une caresse. Puis elle retomba et il poussa un gros soupir. À cette vue, Delta sentit dans sa gorge une douleur à goût de métal qui finit par lui exploser dans le crâne, le déchirant de part en part comme un éclair zébrant le ciel d'été. Elle crut alors entendre une voix qui appelait. Appelait ou exigeait. « Non, pas question, » rétorqua-t-elle mentalement sans savoir à qui elle pensait ou s'adressait. « Pas question, pas cette fois, pas maintenant. » Pas maintenant et plus jamais, peut-être. L'atroce décharge lui traversa encore une fois la tête et ses poings se crispèrent, jusqu'à son visage qui se fit lui-même point, tordu dans un rictus d'extrême concentration, expression frappante par son mélange de laideur et de détermination quasi extatique. Il n'y eut pas de troisième assaut, ni de la douleur, ni de cette voix qui semblait s'exprimer au travers de ses crises. Elle attendit. Bien qu'il se fût calé le menton au creux des mains, la tête d'Eddie ne tarda pas à piquer du nez, donnant l'impression que ses poings lui remontaient le long des joues. Delta continua d'attendre, rivant sur lui son regard d'obsidienne. Il redressa la tête en sursaut, se leva, gagna le bord de l'eau et s'en aspergea la figure.
« C'est qu'il ferait tout pour pas oublier ce petit blanc !» « Dommage qu'il n'y ait pas d'antidodo dans ce monde. T'en prendrais une petite plaquette ? Pas vrai ?»
Eddie choisit cette fois de se rasseoir dans le fauteuil, mais à l'évidence s'y trouva trop confortablement installé. Aussi, après avoir posé un long regard par la porte ouverte,
« Qu'est-ce que tu y vois, petit gars ? Teta donnerait cher pour le savoir !»
Il transféra de nouveau ses fesses à même le sable, se calant de nouveau la tête sur les poings. Tête qui, de nouveau, ne tarda pas à s'affaisser, et que, cette fois, nul sursaut ne redressa. Le menton d'Eddie finit par buter sur sa poitrine, et, malgré le vacarme du ressac, Detta commença d'entendre ses ronflements. Bientôt, il bascula sur le flanc et se roula en boule. Surprise, elle sentit écœurement et panique se mêler en elle alors que l'assaillait une bouffée de pitié à l'égard de ce jeune homme blanc, là en bas sur la grève. Il lui évoquait un petit mioche qui a tenté de veiller jusqu'aux 12 coups de minuit le soir de la Saint-Sylvestre et qui a perdu le défi qu'il s'était lancé. Puis elle se remémora comment ce morveux de cul blanc et son copain, le vraiment méchant, avaient cherché à lui faire avaler de la nourriture empoisonnée. Comment il l'avait nargué avec la leur, succulente et saine, la lui arrachant de devant la bouche à l'instant même où elle allait y mordre, du moins jusqu'à ce qu'ils aient eu peur de la voir mourir d'inanition. S'ils avaient eu peur à ce point que tu meurs, pourquoi auraient-ils voulu t'empoisonner au début ? La question ne la paniqua pas moins que la soudaine pitié qu'il avait assaillie quelques instants plus tôt. Elle n'avait pas coutume de se tourmenter, et la voix intérieure qui venait de l'assaillir n'avait rien eu à voir avec la sienne.
« Ils n'avaient pas l'intention de me tuer avec leur poisson, ils voulaient juste que je sois malade à crever pour qu'ils puissent rigoler de me voir dégueuler et gémir. »
Elle attendit encore une vingtaine de minutes, puis s'ébranla vers la plage, mettant à profit la considérable vigueur de ses bras d'infirme pour, sans jamais quitter Eddie des yeux, ramper avec l'ondulante souplesse d'un serpent. Elle aurait bien continué d'attendre une demi-heure encore, voire une heure de plus.
Autant que ce petit enculé de cul blanc soit pas 15 brasses de fond dans le dodo, plutôt que par 3 ou par 4.
Mais il n'était pas question de se permettre un tel luxe. À tout instant, le vraiment méchant pouvait réintégrer son corps. Parvenue à proximité d'Eddie, qui ronflait toujours comme un sonneur, elle repéra une pierre suffisamment lisse d'un côté pour assurer la prise, suffisamment déchiquetée de l'autre pour faire du vilain. Sa paume en enveloppa le côté lisse, et elle reprit sa reptation vers le jeune homme endormi, le miroitement vitreux du meurtre dans les yeux. 4. Son plan était d'une simplicité brutale. Abattre encore et encore les meurtrières aspérités de la pierre sur la tête d'Eddie, jusqu'à ce qu'il n'y eût pas plus de vie dans l'une que dans l'autre. Puis elle prendrait le revolver et attendrait le retour du pistolero. Il aurait à peine le temps de se redresser, qu'elle le placerait devant un choix, la ramener chez elle ou se faire descendre.
« Dans un cas comme dans l'autre, tu serais débarrassé de moi, mon mignon, » lui dirait-elle. « Et avec ton petit copain Camé, me raconte pas que ça te ferait pas plaisir. »
Si l'arme que le vraiment méchant avait donnée à Eddie n'était bonne à rien, ce qui restait possible, vu qu'elle n'avait jamais rencontré personne qui lui inspira autant que Roland une telle haine, une telle terreur, elle agirait avec lui comme avec les autres. Elle le tuerait avec la pierre ou à main nue. Il était malade et avait 2 doigts de moins. Elle l'aurait. Mais alors qu'elle n'était plus qu'à quelques mètres d'Eddie, une pensée la traversa, particulièrement perturbante. Une question qu'une fois de plus, une autre voix semblait avoir posée. Et s'il le sait déjà, si, à la seconde même où tu massacres Eddie, Roland est au courant.
Pourquoi il serait au courant? Il serait bien trop occupé à chercher son médicament.
La voix s'abstint de répondre, mais le doute était semé. Elle les avait entendus parler alors qu'il la croyait endormie. Le vraiment méchant avait quelque chose à faire. Elle ne savait pas quoi, sinon qu'il était question d'une tour. Peut-être le vraiment méchant avait-il dans l'idée que cette tour était pleine d'or, de bijoux, de quelque chose dans le genre. Il disait qu'il avait besoin d'elle et d'Eddie, ainsi que d'un troisième qu'il avait encore à ramener, ce qu'elle avait jugé possible. Sinon, pourquoi y aurait-il eu ses portes? Si la magie avait à voir là-dedans et qu'elle tuait Eddie, l'autre était effectivement susceptible de la prendre. Et si lui interdire ainsi l'accès à sa tour, c'était sans doute anéantir la seule chose qui raccrocha ce culé de cul blanc à l'existence. Et s'il savait qu'il n'avait plus de raison de vivre?
Alors l'enculé de cul blanc en question allait être capable de n'importe quoi parce que l'enculé de cul blanc allait se fiche de tout comme de sa première chemise.
Elle frissonna à la pensée de ce qui pourrait arriver si le vraiment méchant débarquait dans un tel état d'esprit. Mais s'il était exclu de tuer Eddie, qu'allait-elle faire? Se contenter de désarmer le gamin? Mais quand l'autre allait revenir, serait-elle en mesure d'affronter les deux? Elle n'en savait strictement rien. Son regard passa sur le fauteuil, le dépassa, puis y retourna vite fait. Il y avait une poche à l'arrière du dossier. Un bout de corde en sortait, de la corde dont il s'était servi pour l'attacher. Elle comprit alors la marche à suivre et modifia sa direction en rampant vers le corps inerte du pistolero. Elle allait d'abord prendre quelque chose dont elle estimait avoir besoin dans le havresac que le vraiment méchant appelait sa bourse, puis retournerait chercher la corde, le tout sans tarder. Mais voilà que le spectacle offert par la porte la figeait sur place. Comme Eddie, elle y voyait un film, celui-ci ayant une ressemblance poussée avec les séries policières à la télé. Le décor montrait l'intérieur d'une pharmacie, avec au centre le pharmacien qui avait l'air mort de trouille, et Detta n'aurait pas songé à le lui reprocher. Il y avait une arme au premier plan braquée sur le front du malheureux. Celui-ci disait quelque chose, mais la voix était lointaine, déformée, comme venant d'un haut-parleur. Elle n'aurait su dire pourquoi. Ne voyait pas non plus qui tenait le pistolet, mais là, nul mystère, elle savait qui c'était. Le vraiment méchant, voyons. Pas dit d'ailleurs qu'il ait la même apparence de l'autre côté. Peut fort bien ressembler à un gros patapouf, et même à un frais de couleur, mais dedans, c'est lui, en tout cas. Il s'est trouvé vite fait un autre pétard. Mais t'as vu qu'il met jamais 107 ans à faire les choses. Et tu ferais bien t'en prendre de la graine, ma fille. Allez, grouille-toi, tête à Walker. Elle prit la bourse de Roland, faible et nostalgique, l'arôme d'un tabac dont elle avait longtemps contenu la réserve et dont l'épuisement remontait à longtemps s'en exhala. Ce n'était pas très différent d'un sac de dames rempli d'un bric-à-brac hétéroclite à première vue, mais se révélant à qui l'examinait d'un peu plus près le nécessaire de voyage d'une personne que rien, ou presque, ne saurait prendre au dépourvu. Detta avait dans l'idée que le vraiment méchant était depuis pas mal de temps sur le chemin de sa tour. Si oui, la simple quantité d'objets qui restaient dans ce sac, même si bon nombre ne payaient pas de mine, était en soi passablement surprenante. « Allez, coule-toi, Detta Wok !» Elle y trouva ce dont elle avait besoin, puis, serpent silencieux, retourna vers le fauteuil. Quand elle l'eut atteint, elle prit appui sur un bras pour se hisser à la hauteur de la poche et y pêcher la corde. Ce faisant, elle garda un œil sur Eddie, s'assurant qu'il dormait toujours. Il n'eut pas même un mouvement dans son sommeil jusqu'à ce que Detta, d'une brusque traction sur la corde, resserra le nœud coulant qu'elle venait de confectionner et de lui passer autour du cou. 5. Il se sentit brutalement tiré en arrière et sa première pensée fut qu'il dormait encore. Il était la proie de quelque horrible cauchemar où on l'enterrait vivant, à moins qu'on y tentât de l'étouffer. Puis il prit conscience, douloureusement conscience, de la corde qui lui cisaillait la gorge, du chaud ruissellement de la salive sur son menton alors qu'il étouffait. Mais pas en rêve. Ses doigts s'accrochèrent au garrot. Il tenta de se relever. L'extraordinaire vigueur des bras de Detta se manifesta de nouveau. Arraché en arrière, Eddie se raplatit sur le dos dans un bruit sourd. Il était violet. « Tu bouges plus !» siffla Detta derrière lui. « Je te tue pas si tu bouges plus, mais continue de te débattre, et je continue de serrer. » Eddie baissa les mains et tenta de bloquer ses spasmes. Le nœud se relâcha, juste de quoi lui laisser happer une goulée d'air brûlant. Mieux que rien, mais sans plus. Quand son cœur emballé fut un peu revenu de sa panique, il voulut tourner la tête. Le nœud se resserra aussitôt. « T'occupe. T'as pas autre chose à voir que cette flotte de vent. Fromage blanc. Pour l'instant. » Ça te suffit largement comme spectacle. Il ramena les yeux sur l'océan et une autre de ses parcimonieuses mesures d'air enflammé lui fut accordée. Sa main glissa vers sa ceinture. Mouvement subreptice qu'elle remarqua, même si lui ne la vit pas sourire. N'y trouva rien. Elle lui avait pris le revolver.
« Elle t'est tombée dessus pendant que tu dormais, Eddie. »
C'était le pistolero, bien sûr, qui lui parlait.
« Ça ne sert plus à rien que je te le dise, mais... je t'avais averti. Regarde où ton roman d'amour t'a emmené. Un nœud coulant autour du cou et une folle armée de deux pistolets quelque part derrière toi. »
« Et si elle avait voulu me tuer, elle l'aurait déjà fait, aurait profité de ce que je dormais. »«
Tiens, tiens, tu crois ça, Eddie ? Quelles sont ses intentions à ton égard, selon toi ? T'offrir un voyage tout frais payé à Disney World pour deux personnes ?»«
Écoute, » dit-il. Odetta, à peine le mot eut-il franchi ses lèvres que le nœud se resserra.
« T'arrêtes de m'appeler comme ça ! La prochaine fois que tu le fais, ce sera aussi la dernière que t'ouvriras la bouche. Mon nom, c'est Detta Walker. Et si tu veux avoir une chance de mettre un peu d'air dans tes poumons, t'as intérêt à t'en souvenir. »
Dans une succession de bruits étranglés, il crispa de nouveau ses mains sur le nœud. De grosses taches noires de néant commençaient d'exploser dans son champ de vision. Fleurs maléfiques. Au bout d'une éternité, la pression sur sa glotte redevint supportable.
« Pigé, cul blanc. »
« Oui, » fit-il, couinement éraillé, sans plus.
« Alors, dis-le. Dis mon nom. Detta. En entier. Dis-le en entier. »
Hurlement hystérique, oscillant sous l'inquiétante frontière de la démence. Eddie, en cet instant, fut bien content de ne pas la voir.
« Detta Walker. Bien. »
Léger relâchement du collier de chanvre.
« Maintenant tu m'écoutes, fromage blanc, et tu tâches de ne pas en perdre une miette si t'as envie de vivre jusqu'au coucher du soleil. T'as pas intérêt à jouer les petits malins comme tu viens de faire en essayant d'attraper cette arme qu'heureusement j'avais déjà prise pendant que tu dormais. T'as pas intérêt à vouloir rouler la môme Detta parce qu'elle a l'œil. Réfléchis-y bien avant de faire quoi que ce soit. Et va pas non plus t'imaginer que tu pourras jouer les petits malins parce que Detta, elle a pas de jambes. Il y a des tas de choses que j'ai appris à faire depuis que je les ai perdues. Et puis, n'oublie pas que j'ai les deux pistolets maintenant et que ça change un tas de choses, tu crois pas ?
J'ai... » croassa Eddie. Mais je n'ai pas trop l'impression d'avoir envie de jouer les petits malins. »
Parfait, mon gars. Félicitations. » Elle gloussa. Tu sais que j'ai pas soumis pendant que tu roupillais, le scénario est là, mais point par point dans ma tête. Et je vais te le donner, cul-blanc. Tu vas d'abord mettre les mains derrière le dos pour que j'y passe le même genre de boucle qu'autour du cou. Ça, j'ai aussi fait du macramé pendant que tu dormais, feignasse. Trois jolies petites boucles.
Nouveau ricanement.
Dès que tu la sens, tu réunis les poignets pour que je puisse la passer. Alors tu vas sentir ma main serrer le nœud. Et à ce moment-là, tu vas dire « C'est là ma chance d'échapper à cette salope de négresse. Faut que j'en profite maintenant qu'elle ne tient plus aussi solidement la corde. Sauf que... »
Sur ce, la voix de Detta s'assourdit, la caricature d'accent noir du Sud plus nasillard et voilée que jamais.
« Sauf que tu ferais mieux de te retourner avant de faire une bêtise. »
Eddie se retourna et découvrit une Detta qui avait désormais tout de la sorcière et dont la vue aurait glacé d'effroi des cœurs autrement mieux accrochés que le sien. La robe qu'elle portait chez Macy's et dans laquelle le pistolero l'avait arrachée à l'Amérique des années 60 ne subsistait qu'à l'état de haillon répugnant, et elle avait utilisé le couteau de Rolland, celui qui leur avait précédemment servi à ôter le corset de Sparadrap, pour y faire deux entailles supplémentaires au-dessus des hanches, créant ainsi deux étuis de fortune d'où dépassaient les crosses des revolvers polis par le temps. Et si sa voix s'était épaissie, il fallait en chercher la cause dans la corde qu'elle tenait entre ses dents, l'extrémité fraîchement sectionnée d'un côté de son sourire mauvais, le reste à l'endroit à la boucle qu'elle lui avait passée autour du cou. Pareille vision de cette corde de chanvre émergeant d'un tel rictus avait quelque chose de tellement barbare et prédateur qu'il en resta figé, l'horreur écarquillant ses yeux tandis que par ricochet s'élargissait le sourire de dette.
« Donc, » reprit-elle, « tu fais quoi que ce soit de suspect pendant que je m'occupe de tes mains et ce sale kéké de la force des dents ?» Et cette fois, je vais jusqu'au bout. T'as compris, fromage blanc ?
Il se contenta de hocher la tête, plus très sûr de pouvoir répondre à voix haute.
Bien. Il se peut que tu survives encore quelque temps. C'est préférable,
croassa Eddie. Sinon, tu n'auras plus jamais le plaisir de piller les rayons de chez Mrs., parce qu'il le saura.
Et qu'alors ça va chier des bulles. Silence,
dit Detta, murmurant presque.
Tu la fermes gentiment et tu laisses le soin de réfléchir à ceux qui en sont capables. Tout ce que t'as à faire, c'est de chercher cette deuxième boucle entre tes mains.
6.
« Ça, j'ai aussi fait de m'accramer pendant que tu dormais, »
avait-elle dit. Et le dégoût d'Eddie se doublait d'une inquiétude croissante alors que s'imposait l'évidence. Detta n'avait pas exagéré. La corde présentait l'aspect d'une série de nœuds coulants. Le premier l'étranglait depuis déjà trop longtemps et le deuxième venait de lui bloquer les mains derrière le dos. Maintenant, voilà qu'elle le poussait brutalement sur le flanc et lui ordonnait de plier les jambes jusqu'à ce qu'il eût les pieds au niveau des fesses. Il comprit à quoi ça l'amenait et se fit tirer l'oreille. Un des revolvers jaillit de son étui improvisé. Elle l'arma en appliqua le canon contre la tempe du jeune homme.
« Tu te décides ou c'est moi qui me décide, fromage blanc ?»
susurra-t-elle.
« La différence, c'est que si c'est moi, tu seras mort. » J'aurais qu'à mettre du sable sur les morceaux de cervelle et te rabattre les cheveux sur le trou de l'autre côté. Il pensera, il sera persuadé que tu dors.
Suivit un autre de ces hideux gloussements. Eddie leva les pieds. Elle lui passa la troisième boucle autour des chevilles et fit prestement coulisser le nœud.
Voilà! Lié comme un veau au rodéo.
Description d'une rare justesse, songea Eddie. Tenter de déplier les jambes, de soulager l'inconfort de cette posture, aurait d'abord pour effet de resserrer le nœud, partant de lui cisailler les chevilles, puis de tendre la longueur de corde entre celle-ci et ses poignets, resserrant au passage le nœud, et plus grave, communiquant sa tension au reste de la corde, c'est-à-dire au nœud coulant qu'il avait autour du cou, et... Elle le tirait à présent, le tirait vers le bord de l'eau.
Et là, qu'est-ce que tu...
Il voulut se débattre et constata qu'effectivement, tout se resserrait, y compris son aptitude à respirer. Il se fit aussi mou que possible.
Et garde ses pieds en l'air, connard. Tâche de t'en souvenir. Dis-toi bien que si tu les baisses, ça équivaut à un suicide.
Et se laissa traîner sur le sol inégal. Un caillou lui écorcha la joue, et il sentit la chaleur de son sang. Le souffle rauque de Detta lui emplissait les oreilles, mais plus encore le fracas des vagues et le choc du ressac au fond du tunnel qu'il creusait dans la roche. Seigneur, aurait-elle l'intention de me noyer? Non, bien sûr que non. Il n'eut même pas à attendre que son visage ouvrit un sillon dans l'enchevêtrement de varech marquant la limite des hautes eaux, guirlande de matière morte à la puanteur, saline, froide comme des doigts de marin noyé, pour savoir où il voulait en venir. Il crut réentendre Henry lui dire
« De temps à autre, il nous dégommait une sentinelle. Un Américain, je veux dire. »
Il savait très bien que ça n'aurait servi à rien de choisir un type de l'armée régulière, vu qu'aucun de nous ne se serait aventuré hors du camp pour un Viet. Non, il fallait que ce soit un de nos gars frais débarqué du pays. Il l'éventrait et l'abandonnait, hurlant et baignant dans son sang, puis cueillait ensuite un par un tous les mecs qui se pointaient pour essayer de le sauver. Ça durait jusqu'à ce que leur victime ait rendu l'âme. Et... tu sais comment il l'appelait, le pauvre connard ? Eddie avait fait signe que non. Un pot de miel, qu'il disait. Du sucré, pour attirer les mouches. Un ours, pourquoi pas ? C'était ça qu'elle faisait. Elle se servait de lui comme d'un pot de miel. Elle l'abandonna environ 2 mètres plus bas que la laisse de haute mer, l'abandonna sans maudire, l'abandonna face à l'océan. Ce n'était pas la marée montante et la perspective qu'Eddie se noya que le pistolero était censé découvrir s'il jetait un œil par la porte, car les eaux étaient sur le reflux et il s'écoulerait encore 6 heures avant qu'elle ne redevinsse une menace. Mais bien avant, il haussa légèrement les yeux et vit le soleil imprimer sa voix d'or sur les flots. Quelle heure pouvait-il être ? 4 heures environ. Il en restait à peu près 3 d'ici le coucher du soleil. Il allait faire nuit longtemps avant qu'il n'eût à se soucier de la marée montante. Et avec la nuit, les hommes monstruosités sortiraient des vagues pour arpenter la grève où ils gisaient ligotés, arpentés et questionnés. Puis elle le trouverait. Et leurs pinces feraient le reste. 7. Le temps commença de s'étirer interminablement pour Eddie Dean. La notion même de temps devint une vaste plaisanterie. Même l'horrible perspective de ce qui allait lui arriver quand il ferait noir s'effaça devant l'inconfort grandissant de ses jambes, une palpitation qui alla croissant sur l'échelle des sensations pour se transformer en une douleur lancinante, puis en un véritable supplice. Relâchait-il ses muscles, que les 3 nœuds se resserraient et qu'au bord de l'étranglement, il parvenait de justesse à redresser les chevilles, à soulager la pression de la corde sur sa gorge et admettre un peu d'air dans ses poumons. Il n'était plus du tout sûr de tenir jusqu'au soir. N'importe quand, au cours de ces 3 heures, il se pouvait qu'il ne puisse tout bonnement plus relever les pieds.